C'est l'été. Laissez-vous vous emporter par des recettes simples, gourmandes et engagées qui viendront ensoleiller vos journées. Un podcast à écouter en cuisinant. Si vous voulez retrouver à l'avance les ingrédients, allez sur notre Instagram Écotable.
Je suis Simon Auchert, je suis restaurateur et j'ai créé quelques recettes pour ensoleiller votre été.
Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice d'Écotable. Retrouvez-nous tout le mois d'août avec Simon pour un entrée plat dessert de l'été. Bonjour à toutes et à tous. Salut Simon.
Salut Fanny. Aujourd'hui, on va partir un peu en Méditerranée. Sur la base d'une spanakopita, on va faire une tarte fine. C'est-à-dire qu'on va utiliser un peu le procédé grec avec de la pâte phyllo, de la feta écrasée, sur lesquelles on va rajouter des courgettes et qu'on va enfourner. On aura une tarte fine hyper croustillante aux saveurs méditerranéennes.
Ça donne faim. Réexplique-nous quels sont les ingrédients.
J'ai pris de la pâte phyllo, qu'on peut retrouver à peu près dans tous les commerces. J'ai choisi de la pâte phyllo pour éviter la pâte feuilletée de supermarché. On conseille toujours soit d'acheter de l'artisanal, soit de demander à son boulanger. Pâte feuilletée industrielle, franchement, c'est pas top.
Qu'est-ce qu'il y a dans les pâtes feuilletées industrielles?
Il y a du mauvais beurre, il y a pas assez de tourage, plein de produits chimiques, et en général, ça gonfle pas. Donc c'est pas vraiment de la pâte feuilletée à mon sens. Je n'oblige personne, mais je conseille d'éviter.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la pâte phyllo?
La pâte phyllo, ça vient de Méditerranée, Moyen-Orient un peu. C'est très utilisé, du coup, dans ces cuisines, pour le sucré, pour le salé également. Et en fait, c'est une pâte qui est très très fine, qui en général se superpose. On fait plein de petites couches pour créer un feuilletage, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les baklavas. Et il n'y a pas de produits laitiers dedans.
On n'a que de l'huile.
Et c'est déjà pas mal.
Ensuite, c'est quoi les autres ingrédients?
La feta, forcément. Donc la feta, là j'ai pris une feta entière qui fait à peu près 150 grammes. Je l'ai arrosée généreusement d'huile d'olive, parce que c'est toujours mieux quand c'est généreux avec l'huile d'olive. Sel, poivre, on va mettre un demi oignon blanc, une gousse d'ail, un citron. Il est complètement bio et français, même si c'est plus trop la saison, on en trouve encore. Courgettes, une jaune, une verte, c'est pas obligé, mais c'est plus joli.
Ok, c'est parti.
On va commencer par écraser la feta. Je l'ai déjà arrosée d'huile d'olive, je l'ai mis dans une assiette creuse, et en fait je l'écrase tout simplement à la fourchette.
Sais-tu d'où vient la feta exactement et comment on fait pour choisir une bonne feta?
Alors, pour moi, la feta vient de Grèce, et je pense que pour plein d'autres personnes également. comment on fait pour choisir une bonne feta? Pour moi, il faut vérifier qu'il y ait feta dessus, parce qu'en supermarché, vous remarquerez souvent, on a l'impression qu'il c'est de la feta, ça s'appelle fromage de brebis, et on ne sait pas d'où ça vient, et il y a pas mal de conservateurs dedans. Une bonne feta bio, c'est juste du lait de brebis et quelques ferments naturels.
Oui, il y a une AOP en fait sur la feta. Si on veut de la vraie feta, il faut qu'il y ait écrit feta dessus. Sinon, en effet, c'est du fromage de brebis. C'est la Grèce qui s'est rebellée à un moment parce que tous les pays, notamment européens, se sont mis à faire du fromage de brebis et à appeler ça feta. Donc elle a demandé à l'Union européenne de créer cette AOP. Donc pour avoir des vrais feta, il faut qu'il y ait écrit feta dessus. On en trouve en magasin bio, on en trouve aussi en supermarché. Toi, tu es allé la chercher où?
Moi, j'ai un petit magasin à côté de chez moi, la petite épicerie. J'achète la plupart de mes produits laitiers parce qu'ils sont bien sourcés. Je suis sûr de l'origine des produits et j'ai pas besoin de réfléchir à ce que j'achète. Et ça, c'est plutôt agréable.
Alors, sais-tu que selon la légende, c'est Homère dans l'Odyssée qui aurait découvert en premier l'existence de la feta en voyant un cyclope faire du fromage de brebis dans une grotte. Et c'est à partir de 1930 que le fromage s'exporte de Grèce et on a obtenu l'appellation AOP IGP qu'en 2002. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu nous mets du citron.
Alors maintenant que la feta est écrasée, je vais zester le citron. Parce que c'est quand même là qu'on a le plus de goût. C'est-à-dire que le zeste apporte le goût du citron et le jus apporte l'acidité et la fraîcheur.
Est-ce que tu vas mettre le jus là aussi?
Ouais, je vais mettre le jus parce qu'il faut détendre un peu la feta et que si on rajoute encore de l'huile d'olive, à un moment, ça va commencer à être lourd. Ça va se sentir.
Simon, coupe le citron.
Là, je coupe le citron en deux. On est à la maison, hein, je le presse dans ma main. Les pépins tombent dans mes doigts et pas dans la feta. Le but, c'est de détendre le fromage pour qu'il soit facilement tartinable.
Et de rajouter un peu d'acidité.
Moi, j'aime bien toujours rajouter une touche d'acidité dans tous les plats. Donc, ça peut être du citron, du vinaigre. Là, on essaie de se rapprocher de la graisse et des cyclopes. Donc, on va rester sur le citron.
Donc là, tu mélanges. Donc,
là, je mélange la feta. Et déjà, avec le jus de citron, on commence à avoir une pâte qui ressemble plus à une tartinade. Là, je vais m'arrêter à ce niveau. J'ai mis un peu de poivre, mais pas de sel. La feta, en général, est déjà assez salée. Je rajouterai juste un petit peu de sel sur les courgettes à la fin. Ok, donc là, maintenant qu'on a mis le citron, je vais râper de l'ail dedans, à la microplane, comme j'ai fait pour le citron.
Pour les gens qui n'ont pas de râpe microplane, on peut râper avec une râpe ordinaire ?
Oui, une râpe ordinaire. La microplane a l'avantage de râper vraiment fin.
Le pressail, ça peut marcher aussi ?
Le pressail, c'est parfait. J'ai tendance, quand je cuisine, à essayer d'utiliser le maximum de fois le même ustensile pour éviter la vaisselle supplémentaire.
Donc là, tu râpes la gousse d'ail en entier.
Ouais, tout.
Et en ce moment, on a de l'ail très frais encore dans les étals.
Là, je prends un oignon, c'est un oignon blanc assez doux, la moitié uniquement. Je vais l'émincer.
Alors, est-ce que tu as une technique pour l'éminçage que tu peux nous expliquer ?
Ouais, bah, j'ai la technique école hôtelière, la technique universelle. Il faut prendre l'oignon par les deux bouts. Donc on voit qu'il y a le pédoncule, la partie poilue, on peut dire, et le haut. Donc là, on vient inciser vers le haut jusqu'au pédoncule. Ensuite, en partant... Pour le couper en deux, c'est ça. Et en partant de là, on enlève la peau. Et ensuite, je vais venir faire une incision horizontale. Toujours en gardant la partie du pédoncule attachée, parce que sinon, je vais avoir beaucoup de problèmes à la fin pour tenir mon oignon. Je viens tout du long. Voilà, on commence par l'émincer. Une fois que l'oignon est tranché dans les deux sens, on y va.
Ça nous fait des petits carrés d'oignon, donc puisqu'on a tranché l'oignon à la fois à l'horizontale et aussi à la verticale.
Voilà, et on va jusqu'au bout. Et là, ça ne se voit pas, mais j'ai... ma petite poubelle à peau d'oignon, à queue de persil, bout de courgette, qui vont me servir à faire un petit bouillon.
Pour une autre recette.
Pour une autre recette, je sais pas pour quand. J'ai toujours du bouillon que je mets au congélateur, en fait, je le fais d'avance. Et quand mon congélateur commence à être plein, je fais des recettes à base de bouillon. Des risottos, des soupes. Je mets l'oignon maintenant qui est émincé sur la feta. Quelques feuilles de menthe que je vais haché hyper finement.
T'en as pris combien ?
J'en ai pris 6. Alors ma technique pour la menthe, c'est de bien superposer toutes les feuilles. Ça fait un paquet bien serré. Et ensuite, ce paquet-là, je le roule. Et ça fait un petit cigare de menthe. À partir de là, je vais le trancher finement. Et ça va faire des jolis cheveux de menthe tout fins, bien réguliers.
Et donc, on va la faire cuire, cette menthe.
Exactement.
On va trouver un peu de la menthe partout. Attention à la qualité de la menthe et à son origine. Pour éviter les pesticides dans ces plats.
Exactement. Celle-ci, elle vient du jardin de mes parents. On a ramené une petite bouture qui est bien hydratée en ce moment à Paris. Voilà. Donc là, voilà, j'ai rajouté l'oignon et la menthe dans ma feta. Donc, je vais terminer de mélanger ça. Et ensuite, on sera bon pour cette partie. Et entre nous, on pourrait la manger comme ça, là.
Sur une tartine, déjà.
Ça, je vais le mettre de côté, et on va passer à la pâte philo.
Ok. Pour ceux qui sont en vacances, ils n'ont pas trouvé de pâte philo à côté de chez eux, on peut remplacer par quoi ?
Après, on peut remplacer par n'importe quelle pâte.
Ok.
Vraiment, mais là, ce qu'on va chercher, c'est le côté ultra croustillant. Vraiment le gros crunch de la pâte philo, que la pâte feuilletée peut apporter aussi, ce qu'on retrouvera moins dans une pâte brisée.
Mmh.
On aura une texture un peu plus tarte et un peu plus sablée en bouche.
C'est possible de faire la pâte philo soi-même ?
Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment un bon coup de rouleau, quoi. Là, je vais sortir un moule à tarte. Je suis sur un moule qui fait 32 cm. Toujours un petit peu de papier cuisson au fond. Si jamais on n'est pas assez rapide et que, en fait, la tarte prend un peu l'humidité, la pâte en dessous va se dessécher.
D'accord.
Et il se peut que ça colle.
Sachez que le papier cuisson, il y en a deux types, du blanc et sinon du papier un peu plus marronné, qui s'appelle papier cuisson naturel.
Donc là, toutes les pâtes, je vais les badigeonner d'huile d'olive et j'y vais carrément à la main. On peut prendre le pinceau, mais ça prend plus de temps.
Et la main, c'est quand même très utile. Donc sur chaque feuille que l'on met un peu n'importe comment au fond de sa tarte, on badigeonne avec ses mains d'huile d'olive. T'en mets une deuxième.
Voilà, là, j'en mets une deuxième. Et je vais en mettre 5 ou 6. Histoire qu'on ait un fond qui se tienne. Enfin, donc j'ai mis pas mal d'huile sur la première couche. Sur les autres, je vais y aller un peu plus tranquillement.
C'est voilà. Important d'en mettre plus sur la première, pour l'aspect croustillant aussi.
Ouais, l'huile va quand même favoriser la cuisson et le côté croustillant. Si on n'en met pas, on peut se retrouver avec un fond très blanc et finalement un peu pâteux.
D'accord. Donc là, la troisième.
J'ai pas de preuves scientifiques, mais j'ai des preuves de ratés précédents.
Pour ceux qui auraient envie de manger sans gluten, on peut donc essayer de faire une pâte à tarte avec de la farine de riz ou ce genre de choses.
Bien sûr. J'en ai goûté d'excellentes, mais moi j'avoue que je suis pas un expert. Alors là, je suis à la quatrième, je vais en rajouter une petite cinquième.
Et on rajoute de l'huile d'olive.
Voilà. Pour imager, sur la première, j'ai mis l'équivalent de 2-3 traits. J'ai incliné la bouteille pendant 2-3 secondes. Et quand je dis un trait, en général, c'est juste une seconde rapide au-dessus de ma pâte.
Comme on va la faire cuire, l'huile d'olive, est-ce qu'il faut une huile d'olive particulièrement goûtue ou pas particulièrement ?
Il faut toujours une huile d'olive qui a du goût. Pressée à froid, de qualité. Sinon, autant de mettre de l'huile neutre. Il faut faire attention juste à un truc, c'est que l'huile d'olive, elle a une température, elle brûle à partir de 180 degrés. En général, faire, par exemple, sauter des choses à l'huile d'olive, il faut y aller doucement parce que ça a toujours ce petit goût amer, en fait. Quand tu dépasses les 180 degrés, ça part sur l'amertume et c'est toujours moins sympa. C'est pour ça que pour la friture, on utilise souvent des huiles végétales.
Et là, tu vas la faire cuire à combien
180.
D'accord. Donc 180, c'est bon, mais pas au-dessus.
Je déconseille. Après.
Surtout que ça devient toxique à partir du moment où ça atteint le point de fumage.
Point de fumage. Non, c'est exactement le terme technique que je cherchais. Merci. Maintenant que ma pâte est huilée et bien au fond du moule, je vais rajouter la feta que je vais répartir au fond du plat, que je vais bien étaler. Donc la couche est pas épaisse, hein. Là, avec la taille de ce plat à 32 cm, on se retrouve avec à peu près 1,5 cm de feta au fond du plat, ce qui suffit largement.
Oui, c'est goûtu la feta.
Maintenant, il nous reste plus que deux choses à faire. La première, c'est d'allumer le four, pour être sûr qu'il soit bien chaud quand on met notre plat dedans. Et la deuxième, c'est de trancher les courgettes et de les disposer joliment dans le plat.
On allume le four à 180 degrés. Donc là, on a deux courgettes.
Une jaune et une verte. Je vais les passer à la mandoline. Alors la mandoline, si on n'en a pas, c'est pas grave. Si on en a une, c'est quand même hyper bien et très utile. Parce que ça permet de tout couper de façon régulière et extrêmement fine. Mais au couteau, ça va très bien. Ou sinon, sur les râpes à fromage à l'ancienne, il y a toujours...
Cette grande râpe voilà. Façon mandoline.
Donc là, je coupe des tranches qui font 1,5 mm, 2 mm. Hop, voilà.
Alors, sais-tu que la courgette est en fait un fruit, comme la tomate. En fait, il y a débat. Pour les maraîchers, ce sera un légume. Mais pour les botanistes, elle est issue d'une fleur. Donc, c'est bien un fruit de la famille des cucurbitacées.
Cucurbitacées, je savais. Et moi, j'ai tendance à dire... En fait, si tu le manges salé, c'est un légume. Si tu le manges sucré, c'est un fruit. À part la tomate.
Ouais.
Voilà. Mais
Donc là, comment tu nous mets tes courgettes sur la tarte ?
Alors là, je les fais un peu en rosace. J'ai commencé au centre. Petit à petit, je viens poser en alternance une rondelle de courgettes vertes, une rondelle de courgettes jaunes. Je les tourne en spirale.
Alors évidemment, on n'épluche pas la courgette, hein.
Non, je l'épluche jamais. Et en fait, j'épluche de moins en moins en général. Les fruits, les légumes, en fait. Déjà, je fais attention à pas acheter de fruits et de légumes traités.
Oui, donc quand ils sont bio, il n'y a aucun problème avec la peau. Et en plus, c'est là que se situent, il me semble, toutes les vitamines et aussi le goût. Alors exactement. Le point de la courgette, c'est qu'elle peut vite devenir amère si elle n'est pas fraîche.
Exactement. J'ai de la chance. Ça m'a été rapporté ce week-end par la nounou de ma fille qui a une petite maison en Normandie. Et il y a un vieux monsieur, un paysan, qui produit des légumes d'une qualité incroyable. Voilà, les courgettes, elles sont fermes et elles sont pas pleines de flotte.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, la courgette vient initialement d'Amérique centrale où elle était cultivée par les Aztèques et les Incas. Elle a été ramenée en Europe par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. Donc au fur et à mesure des sélections ensuite, la courgette que l'on a sur notre territoire est née.
Mais enfin là, ça fait quelques années qu'on commence à voir plusieurs variétés de courgettes.
Oui, avant on voyait que la verte,
que la verte
uniforme,
calibrée. Ouais.
Enfin, on a des jaunes, des zébrés.
Des courgettes trompettes aussi.
Chez Terroir d'Avenir à Paris, si vous habitez dans le coin, il y en a des immenses qui sont extrêmement longues, qui se mangent en salade notamment, c'est délicieux. Simon, qu'est-ce que tu fais?
Là, maintenant que ma rosace s'est terminée, je mets encore un petit filet d'huile d'olive sur les courgettes. C'est pour les protéger un peu à la cuisson. Pas mettre d'huile, ça favoriserait le fait qu'elles brûlent.
D'accord.
Ce qu'on va essayer d'éviter.
Ouais.
Mais là, du coup, j'ai mis un peu d'huile. Je vais mettre un peu de sel et poivre.
C'est important de mettre du sel et de poivre alors qu'il y a de la feta déjà.
Alors j'en mets un petit peu sur les courgettes parce que les courgettes, pour moi, ont besoin d'assaisonnement. Donc j'en mets pas beaucoup, mais je mets juste une fine couche dessus. Après, la pâte philo n'est pas salée. J'essaye de balancer tout en restant raisonnable. Donc là, voilà, une petite touche. Je pense que le moulin à poivre devrait être rendu obligatoire dans toutes les cuisines ménagères.
Pourquoi c'est absolument nécessaire?
Parce qu'en fait, les épices en général, elles ont tendance à s'oxyder avec le temps. Le moulin à poivre, c'est complètement opaque, donc la lumière ne va pas abîmer le grain. Et puis surtout, en fait, quand il est pressé minute, vraiment, il y a tous les arômes qui vont sortir. Et là, je sens le poivre. Mm-hmm. Alors que si on achète du poivre déjà moulu, on a quelque chose d'assez fade. Et juste, ça apporte plus de couleur que de goût. Donc là, notre four est chaud, notre tarte est dressée. On va la mettre au four pendant 30-35 minutes.
Tu ne rabats pas les filos, hein ?
Non, je les rabats pas, parce que ça va vraiment faire quelque chose de joli à la fin, et on verra les morceaux de filos qui vont...
On est vraiment comme une tarte fine, mais avec de la pâte filo.
Allez, c'est parti. Et voilà, là je pense qu'on peut...
On peut déguster.
Donc là, ça va croustiller.
Si on coupe la tarte qui sort du four, ça peut se manger froid tout à fait aussi. Hein.
Ce sera très bon froid. Là je vois, là quand je regarde en dessous, je vois que la pâte a bien coloré en dessous. C'est ce qu'on veut. Moi ce que j'aime bien avec la pâte filo, c'est quand on va le mettre en bouche, on va croquer, il y en aura partout. C'est génial, ça va croustiller de tous les côtés. Exactement ce qu'il fallait. La feta est hyper fraîche. On a la menthe qui reste au fond, qui apporte beaucoup de fraîcheur. La courgette est restée hyper juteuse. Tu vois, elle a pas lâché d'eau, mais elle a gardé son eau. Et là, elle est bien cuite, elle est limite confite.
C'est absolument bon. Délicieux. Il y a une fraîcheur dans la feta que j'ai rarement expérimentée avec ce citron, avec la menthe et les courgettes qui sont parfaites. Franchement, c'est clairement le plat de l'été. Alors, hein.
Merci Homer et le Cyclope. C'est tout ce que je peux dire.
Au moins, on va se faire un bon repas, là.
Ouais. J'aurais bien dressé une petite table sur la terrasse, mais faudra repasser.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cuisiner cette fois de délicieux abricots rôtis, une recette simplissime, mais tellement bonne.